Fichier 2. Condorcet. Réflexion sur l'esclavage des nègres. Chapitre 1 à 7. Chapitre 1. De l'injustice de l'esclavage des nègres considérée par rapport à leur maître. Réduire un homme à l'esclavage. L'acheter. Le vendre. Le retenir dans la servitude. Ce sont de véritables crimes, et des crimes pires que le vol. En effet, on dépouille l'esclave, non seulement de toute propriété mobilière ou foncière, mais de la faculté d'en acquérir, mais de la propriété de son temps, de ses forces, de tout ce que la nature lui a donné pour conserver sa vie ou satisfaire à ses besoins. À ce tort, on joint celui d'enlever à l'esclave le droit de disposer de sa personne. Où il n'y a point de morale, où il faut convenir de ce principe. Que l'opinion ne flétrisse point ce genre de crime. Que la loi du pays le tolère, ni l'opinion, ni la loi ne peuvent changer la nature des actions. Et cette opinion serait celle de tous les hommes, et le genre humain assemblé aurait, d'une voix unanime, porter cette loi, que le crime resterait toujours un crime. Dans la suite, nous comparerons souvent avec le vol l'action de réduire à l'esclavage. Ces deux crimes, quoique le premier soit beaucoup moins grave, ont de grands rapports entre eux. Et comme l'un a toujours été le crime du plus fort et le vol celui du plus faible, nous trouvons toutes les questions sur le vol résolues d'avance et suivant de bons principes par tous les moralistes, tandis que l'autre crime n'a pas même de nom dans leurs livres. Il faut accepter cependant le vol à main armée qu'on appelle conquête et quelques autres espèces de vol où c'est également le plus fort qui dépouille le plus faible. Les moralistes sont aussi muets sur ces crimes que sur celui de réduire des hommes à l'esclavage. Chapitre 2. Raison dont on se sert pour excuser l'esclavage des nègres. On dit, pour excuser l'esclavage des nègres jetés en Afrique, que ces malheureux sont ou des criminels condamnés au dernier supplice, ou des prisonniers de guerre qui seraient mis à mort s'ils n'étaient pas achetés par les Européens. D'après ce raisonnement, quelques écrivains nous présentent la traite des nègres comme étant presque un acte d'humanité. Mais nous observerons, premièrement, que ce fait n'est pas prouvé et n'est pas même vraisemblable. Quoi? Avant que les Européens achetassent des nègres, les Africains égorgeaient tous leurs prisonniers. Ils tuaient non seulement les femmes mariées, comme c'était dit-on autrefois l'usage chez une horde de voleurs orientaux, mais même les filles non mariées, ce qui n'a jamais été rapporté d'aucun peuple. Quoi? Si nous n'allions pas chercher des nègres en Afrique, les Africains tueraient les esclaves qu'ils destinent maintenant à être vendus? Chacun des deux partis aimerait mieux assommer des prisonniers que de les échanger. Pour croire des faits invraisemblables, il faut des témoignages respectables. Et nous n'avons ici que ceux des gens employés au commerce des nègres. Je n'ai jamais eu l'occasion de les fréquenter, mais il y avait chez les Romains des hommes livrés au même commerce. Et leur nom est encore une injure. Deuxièmement, en supposant qu'on sauve la vie du nègre qu'on achète, on ne commet pas moins un crime en l'achetant si c'est pour le revendre ou le réduire en esclavage. C'est précisément l'action d'un homme qui, après avoir sauvé un malheureux poursuivi par des assassins, le volerait. Ou bien, si on suppose que les Européens ont déterminé les Africains à ne plus tuer leurs prisonniers, Ce serait l'action d'un homme qui serait parvenu à dégoûter des brigands d'assassiner les passants et les aurait engagés à se contenter de les voler avec lui. Dirait-on, dans l'une ou dans l'autre de ces suppositions, que cet homme n'est pas un voleur? Un homme qui, pour en sauver un autre de la mort, donnerait de son nécessaire, serait sans doute en droit d'exiger un dédommagement. Il pourrait acquérir un droit sur le bien et même sur le travail de celui qui l'a sauvé, en prélevant cependant ce qui est nécessaire à la subsistance de l'obligé. Mais il ne pourrait, sans injustice, le réduire à l'esclavage. On peut acquérir des droits sur la propriété future d'un autre homme, mais jamais sur sa personne. Un homme peut avoir le droit d'en forcer un autre à travailler pour lui, mais non pas de le forcer à lui obéir. Troisièmement, l'excuse alléguée est d'autant moins légitime que c'est au contraire l'infâme commerce des brigands d'Europe qui fait naître entre les Africains des guerres presque continuelles, dont l'unique motif est le désir de faire des prisonniers pour les vendre. Souvent, les Européens eux-mêmes fomentent ces guerres par leur argent ou par leurs intrigues, en sorte qu'ils sont coupables non seulement du crime de réduire des hommes à l'esclavage, mais encore de tous les meurtres commis en Afrique pour préparer ce crime. Ils ont l'art perfide d'exciter la cupidité et les passions des Africains, d'engager le père à livrer ses enfants, le frère à trahir son frère, le prince à vendre ses sujets. Ils ont donné à ce malheureux peuple le goût destructeur des liqueurs fortes, et ils lui ont communiqué ce poison qui, caché dans les forêts de l'Amérique, est devenu, grâce à l'active avidité des Européens, un des fléaux du globe. Et ils osent encore parler d'humanité. Quand bien même l'excuse que nous venons d'alléguer disculperait le premier acheteur, elle ne pourrait excuser ni le second acheteur, ni le colon qui garde le nègre, car ils n'ont pas le motif présent d'enlever à la mort l'esclave qu'ils achètent. Ils sont, par rapport au crime de réduire en esclavage, ce qu'est, par rapport à un vol, celui qui partage avec le voleur, ou plutôt celui qui charge un autre d'un vol et qui en partage avec lui le produit. La loi peut avoir des motifs pour traiter différemment le voleur et son complice ou son instigateur. Mais en morale, le délit est le même. Enfin, cette excuse est absolument nulle pour les nègres nés dans l'habitation. Le maître qui les élève pour les laisser dans l'esclavage est criminel parce que le soin qu'il a pu prendre d'eux dans l'enfance ne peut lui donner sur eux aucune apparence de droit. En effet, pourquoi ont-ils eu besoin de lui? C'est parce qu'il a ravi à leurs parents, avec la liberté, la faculté de soigner leur enfant. Ce serait donc prétendre qu'un premier crime peut donner le droit d'en commettre un second. D'ailleurs, supposons même l'enfant nègre abandonné librement de ses parents. Le droit d'un homme sur un enfant abandonné qu'il a élevé peut-il être de le réduire à l'esclavage? Une action d'humanité donnerait-elle le droit de commettre un crime? L'esclavage des criminels légalement condamnés n'est pas même légitime. En effet, une des conditions nécessaires pour que la peine soit juste, c'est qu'elle soit déterminée par la loi, et quant à sa durée, et quant à sa forme. Ainsi, la loi peut condamner à des travaux publics parce que la durée du travail, la nourriture, les punitions en cas de paresse ou de révolte peuvent être déterminées par la loi. Mais la loi ne peut jamais prononcer contre un homme la peine d'être esclave d'un autre homme en particulier, parce que la peine dépendant alors absolument du caprice du maître, elle est nécessairement indéterminée. D'ailleurs, il est aussi absurde qu'atroce d'oser avancer que la plupart des malheureux achetés en Afrique sont des criminels. A-t-on peur qu'on n'ait pas assez de mépris pour eux, qu'on ne les traite pas avec assez de dureté? Et comment suppose-t-on qu'il existe un pays où ils se commettent tant de crimes et où cependant ils se fassent une si exacte justice? Chapitre 3. De la prétendue nécessité de l'esclavage des nègres, considérée par rapport au droit qui peut en résulter pour leur maître. On prétend qu'il est impossible de cultiver les colonies sans nègres esclaves. Nous admettrons ici cette allégation. Nous supposerons cette impossibilité absolue. Il est clair qu'elle ne peut rendre l'esclavage légitime. En effet, si la nécessité absolue de conserver notre existence peut nous autoriser à blesser le droit d'un autre homme, la violence cesse d'être légitime à l'instant où cette nécessité absolue vient à cesser. Or, il n'est pas question ici de ce genre de nécessité, mais seulement de la perte de la fortune des colons. Ainsi, demander si cet intérêt rend l'esclavage légitime, c'est demander s'il m'est permis de conserver ma fortune par un crime. Le besoin absolu que j'aurais des chevaux de mon voisin pour cultiver mon champ ne me donnerait pas le droit de voler ses chevaux. Pourquoi donc aurais-je le droit de l'obliger lui-même par la violence à le cultiver? Cette prétendue nécessité ne change donc rien ici et ne rend pas l'esclavage moins criminel de la part du maître. Chapitre 4. Si un homme peut acheter un autre homme de lui-même. Un homme se présente à moi et me dit: Donnez-moi une telle somme et je serai votre esclave. Je lui délivre la somme, il l'emploie librement. Sans cela, le marché serait absurde. Ai-je le droit de le retenir en esclavage? J'entends lui seul, car il est bien clair qu'il n'a pas eu le droit de me vendre sa postérité. Et quelle que soit l'origine de l'esclavage du père, les enfants naissent libres. Je réponds que dans ce cas-là même, je ne puis avoir ce droit. En effet, si un homme se loue à un autre homme, pour un an par exemple, soit pour travailler dans sa maison, soit pour le servir, il a formé avec son maître une convention libre dont chacun des contractants a le droit d'exiger l'exécution. Supposons que l'ouvrier se soit engagé pour la vie. Le droit réciproque entre lui et l'homme à qui il s'est engagé doit subsister comme pour une convention à temps. Si les lois veillent à l'exécution du traité, si elles règlent la peine qui sera imposée à celui qui viole la convention, si les coups, les injures du maître sont punis par des peines ou pécuniaires ou corporelles. Et pour que les lois soient justes, il faut que pour le même acte de violence, pour le même outrage, la peine soit aussi la même pour le maître et pour l'homme engagé. Si les tribunaux annulent la convention dans le cas où le maître est convaincu ou d'excéder de travail son domestique, son ouvrier engagé, ou de ne pas pourvoir à sa subsistance, si, lorsqu'après avoir profité du travail de sa jeunesse, son maître l'abandonne, la loi condamne ce maître à lui payer une pension. Alors, cet homme n'est point esclave. Qu'est-ce en effet que la liberté considérée dans le rapport d'un homme à un autre? C'est le pouvoir de faire tout ce qui n'est pas contraire à ces conventions, et dans le cas où l'on s'en écarte, le droit de ne pouvoir être contraint à les remplir ou puni d'y avoir manqué que par un jugement légal. C'est enfin le droit d'implorer le secours des lois contre toute espèce d'injure ou de lésion. Un homme a-t-il renoncé à ses droits? Sans doute, alors il devient esclave. Mais aussi, son engagement devient nul par lui-même, comme l'effet d'une folie habituelle ou d'une aliénation d'esprit causée par la passion ou l'excès du besoin. Ainsi, tout homme qui, dans ses conventions, a conservé les droits naturels que nous venons d'exposer, n'est pas esclave. Et celui qui y a renoncé, ayant fait un engagement nul, il est aussi en droit de réclamer ses libertés que l'esclave fait par la violence. Il peut rester le débiteur, mais seulement le débiteur libre de son maître. Il n'y a donc aucun cas où l'esclavage, même volontaire dans son origine, puisse n'être pas contraire aux droits naturels. Chapitre 5. De l'injustice de l'esclavage des nègres, considéré par rapport au législateur. Tout législateur, tout membre particulier d'un corps législatif, est assujetti aux lois de la morale naturelle. Une loi injuste qui blesse le droit des hommes, soit nationaux, soit étrangers, est un crime commis par le législateur, ou donc ceux des membres du corps législatif qui ont souscrit à cette loi sont tous complices. Tolérer une loi injuste lorsqu'on peut la détruire est aussi un crime. Mais ici, la morale n'exige rien des législateurs, au-delà de ce qu'elle prescrit aux particuliers lorsqu'elle leur impose le devoir de réparer une injustice. Ce devoir est absolu en lui-même, mais il est des circonstances où la morale exige seulement la volonté de le remplir et laisse à la prudence le choix des moyens et du temps. Ainsi, dans la réparation d'une injustice, le législateur peut avoir égard aux intérêts de celui qui a souffert de l'injustice, et cet intérêt peut demander, dans la manière de la réparer, des précautions qui entraînent des délais. Il faut avoir égard aussi à la tranquillité publique, et les mesures nécessaires pour la conserver peuvent demander qu'on suspende les opérations les plus utiles. Mais on voit qu'il ne peut être ici question que de délais, de formes plus ou moins lentes. En effet, il est impossible qu'il soit toujours utile à un homme, et encore moins à une classe perpétuelle d'hommes, d'être privé des droits naturels de l'humanité. Et une association où la tranquillité générale exigerait la violation du droit des citoyens ou des étrangers ne serait plus une société d'hommes, mais une troupe de brigands. Les sociétés politiques ne peuvent avoir d'autre but que le maintien des droits de ceux qui les composent. Ainsi, toute loi contraire aux droits d'un citoyen ou d'un étranger est une loi injuste. Elle autorise une violence. Elle est un véritable crime. Ainsi, la protection de la force publique accordée à la violation du droit d'un particulier est un crime dans celui qui dispose de la force publique. Si cependant il existe une sorte de certitude qu'un homme est hors d'état d'exercer ses droits, et que si on lui en confie l'exercice, il en abusera contre les autres, ou qu'il s'en servira à son propre préjudice, alors la société peut le regarder comme ayant perdu ses droits, ou comme ne les ayant pas acquis. C'est ainsi qu'il y a quelques droits naturels dont les enfants en bas âge sont privés, dont les imbéciles, dont les fous restent déchus. De même, si par leur éducation, par l'abrutissement contracté dans l'esclavage, par la corruption des mœurs, Suite nécessaire des vices et de l'exemple de leurs maîtres, les esclaves des colonies européennes sont devenus incapables de remplir les fonctions d'hommes libres, on peut, du moins jusqu'au temps où l'usage de la liberté leur aura rendu ce que l'esclavage leur a fait perdre, les traiter comme ces hommes que le malheur ou la maladie a privés d'une partie de leurs facultés, à qui on ne peut laisser l'exercice entier de leurs droits sans les exposer à faire du mal à autrui ou à se nuire à eux-mêmes, et qui ont besoin non seulement de la protection des lois, mais des soins de l'humanité. Si un homme doit à la perte de ses droits l'assurance de pourvoir à ses besoins, si, en lui rendant ses droits, on l'expose à manquer du nécessaire, alors l'humanité exige que le législateur concilie la sûreté de cet homme avec ses droits. C'est ce qui a lieu dans l'esclavage des Noirs, comme dans celui de la glèbe. Dans le premier cas, la case des nègres, leurs meubles, les provisions pour leur nourriture appartiennent au maître. En leur rendant brusquement la liberté, on les réduirait à la misère. De même, dans l'esclavage de la glèbe, le cultivateur, dont le champ, dont la maison appartient au maître, pourrait se trouver, par un changement trop brusque, libre, mais ruiné. Ainsi, dans de pareilles circonstances, ne pas rendre sur le champ à des personnes l'exercice de leurs droits, ce n'est ni violer ses droits, ni continuer à en protéger les violateurs. C'est seulement mettre dans la manière de détruire les abus la prudence nécessaire pour que la justice qu'on rend à un malheureux devienne plus sûrement pour lui un moyen de bonheur. Le droit d'être protégé par la force publique contre la violence est un des droits que l'homme acquiert en entrant dans la société. Ainsi, le législateur doit à la société de n'y point admettre des hommes qui lui sont étrangers et qui pourraient la troubler. Il doit encore à la société de ne point faire les lois, même les plus justes, s'il présume qu'elles s'y porteront le trouble, avant de s'être assuré ou des moyens de prévenir ces troubles ou de la force nécessaire pour punir ceux qui les causent avec le moindre danger possible pour le reste des citoyens. Ainsi, par exemple, avant de placer les esclaves au rang des hommes libres, il faut que la loi s'assure qu'en cette nouvelle qualité, ils ne troubleront point la sûreté des citoyens. Il faut avoir prévu tout ce que la sûreté publique peut, dans un premier moment, avoir à craindre de la fureur de leurs maîtres offensés, à la fois dans deux passions bien fortes, l'avidité et l'orgueil. Car l'homme accoutumé à se voir entouré d'esclaves ne se console point de n'avoir que des inférieurs. Tels sont les seuls motifs qui puissent permettre au législateur de différer sans crime la destruction de toute loi qui prive un homme de ses droits. La prospérité du commerce, la richesse nationale, ne peuvent être mises en balance avec la justice. Un nombre d'hommes assemblés n'a pas le droit de faire ce qui, de la part de chaque homme en particulier, serait une injustice. Ainsi, l'intérêt de puissance et de richesse d'une nation doit disparaître devant le droit d'un seul homme. Autrement, il n'y a plus de différence entre une société réglée et une horde de voleurs. Si 10 000, 100 000 hommes ont le droit de tenir un homme dans l'esclavage parce que leur intérêt le demande, pourquoi un homme fort comme Hercule n'aurait-il pas le droit d'assujettir un homme faible à sa volonté? Tels sont les principes de justice qui doivent guider dans l'examen des moyens qui peuvent être employés pour détruire l'esclavage. Mais il n'est pas inutile, après avoir traité la question dans ses principes de justice, de la traiter sous un autre point de vue et de montrer que l'esclavage des nègres est aussi contraire à l'intérêt du commerce qu'à la justice. Il est essentiel d'enlever à ce crime l'appui même de ces politiques de comptoir ou de bureau à qui la voix de la justice est étrangère et qui se regardent comme des hommes d'État et de profonds politiques parce qu'ils voient l'injustice de sang-froid et qu'ils la souffrent, l'autorisent ou la commettent sans remords. Chapitre 6. Les colonies à sucre et à indigo ne peuvent-elles être cultivées que par des nègres esclaves? Il n'est pas prouvé que les îles de l'Amérique ne puissent être cultivées par des blancs. À la vérité, les excès de négresse et de liqueurs fortes peuvent rendre les blancs incapables de tout travail. Leur avarice, qui les excite à se livrer avec excès à des travaux qu'on leur paye très cher, peut aussi les faire périr. Mais si les îles, au lieu d'être partagées par grandes portions, étaient divisées en petites propriétés, si seulement les terres qui ont échappé à l'avidité des premiers colons étaient divisées par les gouvernements ou par leurs cessionnaires entre des familles de cultivateurs, il est au moins très vraisemblable qu'il se formerait bientôt dans ces pays une race d'hommes vraiment capables de travail. Ainsi, le raisonnement des politiques qui croient les nègres esclaves nécessaires se réduit à dire: les blancs sont avares, ivrognes et crapuleux. Donc, les noirs doivent être esclaves. Mais supposons que les nègres soient nécessaires. Il ne s'ensuivrait pas qu'il fût nécessaire d'employer des nègres esclaves. Aussi, on établit sur deux autres raisons cette prétendue nécessité. La première soutient de la paresse des nègres, qui, ayant peu de besoins et vivant de peu, ne travailleraient que pour gagner l'étroit nécessaire, c'est-à-dire en d'autres termes, que l'avarice des blancs étant beaucoup plus grande que celle des nègres, il faut rouer de coups ceux-ci pour satisfaire les vices des autres. Cette raison d'ailleurs est fausse. Les hommes, après avoir travaillé pour la subsistance, travaillent pour l'aisance lorsqu'ils peuvent y prétendre. Il n'y a de peuple vraiment paresseux dans les nations civilisées que ceux qui sont gouvernés de manière qu'il n'y aurait rien à gagner pour eux en travaillant davantage. Ce n'est ni au climat, ni au terrain, ni à la constitution physique, ni à l'esprit national qu'il faut attribuer la paresse de certains peuples. C'est aux mauvaises lois qui les gouvernent. Il serait aisé d'établir cette vérité par des exemples, en parcourant tous les peuples, depuis l'Angleterre jusqu'aux Mogols, depuis la principauté de Neuchâtel jusqu'à la Chine. Seulement, plus le sol est bon, plus la nation a de facilités naturelles pour le commerce, plus il faut aussi que les lois soient mauvaises pour rendre le peuple paresseux. Il faudrait par exemple, pour détruire l'industrie des Normands et des Hollandais, de bien plus mauvaises lois que pour détruire celles des Neuchâtelois et des Savoyards. La deuxième raison en faveur de l'esclavage des nègres se tire de la nature des cultures établies dans les îles. Ces cultures, dit-on, exigent de grands ateliers et le concours d'un grand nombre d'hommes rassemblés. D'ailleurs, leur produit étant sujet à s'altérer en peu de temps, si la culture était laissée à des hommes libres, la récolte dépendrait du caprice des ouvriers. Cette seconde raison ne peut séduire aucun homme capable de réflexion, ni même quiconque n'a point passé la vie entière dans l'enceinte d'une ville. D'abord, on aurait prouvé la même chose de la culture du blé, de celle du vin, dans le temps que l'Europe était cultivée par les esclaves. Et il est aussi ridicule de soutenir qu'en Amérique, on ne peut avoir de sucre ou d'indigo que dans des grands établissements formés avec des esclaves, qu'il aurait été, il y a 18 siècles, de prétendre que l'Italie cesserait de produire du blé, du vin ou de l'huile si l'esclavage était aboli. Il n'est pas plus nécessaire que le moulin à sucre appartienne au propriétaire du terrain qu'il ne l'est que le pressoir appartienne au propriétaire de la vigne ou le four au propriétaire du champ du blé. Au contraire, en général, dans toute espèce de culture, comme dans toute espèce d'art, plus le travail se divise, plus les produits augmentent et se perfectionnent. Ainsi, bien loin qu'il soit utile que le sucre se prépare sous la direction de ceux qui ont planté la canne, il serait plus utile que la canne fût achetée du propriétaire par des hommes dont le métier serait de fabriquer le sucre. Il faut bien observer que rien dans la culture de la canne à sucre ou de l'espèce de fenouil qui produit l'indigo ne s'oppose à ce que les champs de canne d'indigo ne soient partagés en petites parties et divisés soit pour la propriété, soit pour l'exploitation. C'est ainsi que la canne à sucre est cultivée en Asie de temps immémorial. Chaque propriétaire d'un petit champ porte au marché le sucre de la canne qu'il a exprimé chez lui et qu'il a converti en mélasse. Et il vaudrait bien mieux encore qu'il vendît la canne ou sur pied ou coupée à un manufacturier. C'est aussi ce qui arriverait en Asie si le gouvernement n'y étouffait pas l'industrie et dans les îles si la culture y était libre. Ce que nous venons de dire du sucre s'applique à l'indigo et plus aisément encore au café ou aux épices. Il est donc d'abord très vraisemblable que les nègres ne sont pas les seuls hommes qui puissent remuer la terre en Amérique. Et il est certain que la culture par des nègres libres ne nuirait ni à la quantité, ni à la qualité des denrées, et au contraire, contribuerait à augmenter l'une en perfectionnant l'autre. Le préjugé contraire a été accrédité par les colons et peut-être de bonne foi. La raison en est simple. Ils n'ont pas distingué le produit réel du produit net. En effet, faites cultiver par des esclaves, le produit net sera plus grand, parce qu'il ne vous en coûtera en frais de culture que le moins qu'il est possible. Vous ne donnerez à vos esclaves que la nourriture nécessaire. Vous choisirez la plus commune et la moins chère. Ils n'auront qu'une hutte pour maison. À peine leur donnerez-vous un habillement grossier. Le journalier le plus pressé d'ouvrage exigerait un salaire plus fort. D'ailleurs, un journalier veut tantôt gagner plus pour former quelque capital, tantôt il veut se réserver du temps pour se divertir. S'il emploie toutes ses forces, il faut que votre argent les dédommage de ce qu'il n'a pas succombé à sa paresse. Avec les esclaves, vous employez les coups de bâton, ce qui est moins cher. Dans la culture libre, c'est la concurrence réciproque des propriétaires et des ouvriers qui fixe le prix. Dans la culture esclave, le prix dépend absolument de l'avidité du propriétaire. Mais aussi, dans la culture esclave, le produit brut est plus faible. Et au contraire, le produit brut sera plus considérable dans la culture libre. Ce n'est donc pas l'intérêt d'augmentation de culture qui fait prendre la défense de l'esclavage des nègres. C'est l'intérêt d'augmentation de revenus pour les colons. Ce n'est pas l'intérêt patriotique plus ou moins fondé, mais c'est tout simplement l'avarice et la barbarie des propriétaires. La destruction de l'esclavage ne ruinerait ni les colonies ni le commerce. Elle rendrait les colonies plus florissantes, elle augmenterait le commerce, elle ne ferait d'autre mal que d'empêcher quelques hommes barbares de s'engraisser des sueurs et du sang de leurs frères. En un mot, l'amas entière des hommes y gagnerait, tandis que quelques particuliers n'y perdraient que l'avantage de pouvoir commettre impunément un crime utile à leurs intérêts. Les sociétés politiques ne peuvent avoir d'autre but que le maintien des droits de ceux qui les composent. Ainsi, toute loi contraire aux droits d'un citoyen ou d'un étranger est une loi injuste. Elle autorise une violence. Elle est un véritable crime. Ainsi, la protection de la force publique accordée à la violation du droit d'un particulier est un crime dans celui qui dispose de la force publique. Si cependant il existe une sorte de certitude qu'un homme est hors d'état d'exercer ses droits et que si on lui en confie l'exercice, il en abusera contre les autres ou qu'il s'en servira à son propre préjudice, alors la société peut le regarder comme ayant perdu ses droits ou comme ne les ayant pas acquis. C'est ainsi qu'il y a quelques droits naturels dont les enfants en bas âge sont privés, dont les imbéciles, dont les fous restent déchus. De même, si par leur éducation, par l'abrutissement contracté dans l'esclavage, par la corruption des mœurs, suite nécessaire des vices et de l'exemple de leurs maîtres, les esclaves des colonies européennes sont devenus incapables de remplir les fonctions d'hommes libres, on peut, du moins jusqu'au temps où l'usage de la liberté leur aura rendu ce que l'esclavage leur a fait perdre, les traiter comme ces hommes que le malheur ou la maladie a privés d'une partie de leurs facultés, à qui on ne peut laisser l'exercice entier de leurs droits sans les exposer à faire du mal à autrui ou à se nuire à eux-mêmes, et qui ont besoin non seulement de la protection des lois, mais des soins de l'humanité. Si un homme doit à la perte de ses droits l'assurance de pourvoir à ses besoins, si, en lui rendant ses droits, on l'expose à manquer du nécessaire, alors l'humanité exige que le législateur concilie la sûreté de cet homme avec ses droits. C'est ce qui a lieu dans l'esclavage des Noirs, comme dans celui de la glèbe. Dans le premier cas, la case des nègres, leurs meubles, les provisions pour leur nourriture appartiennent au maître. En leur rendant brusquement la liberté, on les réduirait à la misère. De même, dans l'esclavage de la glèbe, le cultivateur, dont le champ, dont la maison appartient au maître, pourrait se trouver, par un changement trop brusque, libre, mais ruiné. Ainsi, dans de pareilles circonstances, ne pas rendre sur le champ à des personnes l'exercice de leurs droits, ce n'est ni violer ses droits, ni continuer à en protéger les violateurs. C'est seulement mettre dans la manière de détruire les abus la prudence nécessaire pour que la justice qu'on rend à un malheureux devienne plus sûrement pour lui un moyen de bonheur. Le droit d'être protégé par la force publique contre la violence est un des droits que l'homme acquiert en entrant dans la société. Ainsi, le législateur doit à la société de n'y point admettre des hommes qui lui sont étrangers et qui pourraient la troubler. Il doit encore à la société de ne point faire les lois, même les plus justes, s'il présume qu'elles y porteront le trouble, avant de s'être assuré, ou des moyens de prévenir ces troubles, ou de la force nécessaire pour punir ceux qui les causent, avec le moindre danger possible pour le reste des citoyens. Ainsi, par exemple, avant de placer les esclaves au rang des hommes libres, il faut que la loi s'assure qu'en cette nouvelle qualité, ils ne troubleront point la sûreté des citoyens. Il faut avoir prévu tout ce que la sûreté publique peut, dans un premier moment, avoir à craindre de la fureur de leurs maîtres offensés, à la fois dans deux passions bien fortes, l'avidité et l'orgueil. Car l'homme accoutumé à se voir entouré d'esclaves ne se console point de n'avoir que des inférieurs. Tels sont les seuls motifs qui puissent permettre au législateur de différer sans crime la destruction de toute loi qui prive un homme de ses droits. La prospérité du commerce, la richesse nationale ne peuvent être mises en balance avec la justice. Un nombre d'hommes assemblés n'a pas le droit de faire ce qui, de la part de chaque homme en particulier, serait une injustice. Ainsi, l'intérêt de puissance et de richesse d'une nation doit disparaître devant le droit d'un seul homme. Autrement, il n'y a plus de différence entre une société réglée et une horde de voleurs. Si 10 000, 100 000 hommes ont le droit de tenir un homme dans l'esclavage parce que leur intérêt le demande, pourquoi un homme fort comme Hercule n'aurait-il pas le droit d'assujettir un homme faible à sa volonté? Tels sont les principes de justice qui doivent guider dans l'examen des moyens qui peuvent être employés pour détruire l'esclavage. Mais il n'est pas inutile, après avoir traité la question dans ses principes de justice, de la traiter sous un autre point de vue et de montrer que l'esclavage des nègres est aussi contraire à l'intérêt du commerce qu'à la justice. Il est essentiel d'enlever à ce crime l'appui même de ces politiques de comptoir ou de bureau, à qui la voie de la justice est étrangère et qui se regardent comme des hommes d'État et de profonds politiques, parce qu'ils voient l'injustice de sang-froid et qu'ils la souffrent, l'autorisent ou la commettent sans remords. Chapitre 6. Les colonies à sucre et à indigo ne peuvent-elles être cultivées que par des nègres esclaves? Il n'est pas prouvé que les îles de l'Amérique ne puissent être cultivées par des blancs. À la vérité, les excès de négresse et de liqueurs fortes peuvent rendre les blancs incapables de tout travail. Leur avarice, qui les excite à se livrer avec excès à des travaux qu'on leur paye très cher, peut aussi les faire périr. Mais si les îles, au lieu d'être partagées par grandes portions, étaient divisées en petites propriétés, si seulement les terres qui ont échappé à l'avidité des premiers colons étaient divisées par les gouvernements ou par leurs cessionnaires entre des familles de cultivateurs, il est au moins très vraisemblable qu'il se formerait bientôt dans ces pays une race d'hommes vraiment capables de travail. Ainsi, le raisonnement des politiques qui croient les nègres esclaves nécessaires se réduit à dire: les blancs sont avares, ivrognes et crapuleux, donc les noirs doivent être esclaves. Mais supposons que les nègres soient nécessaires. Il ne s'ensuivrait pas qu'il fût nécessaire d'employer des nègres esclaves. Aussi, on établit sur deux autres raisons cette prétendue nécessité. La première soutient de la paresse des nègres, qui, ayant peu de besoins et vivant de peu, ne travailleraient que pour gagner l'étroit nécessaire, c'est-à-dire en d'autres termes, que l'avarice des blancs étant beaucoup plus grande que celle des nègres, il faut rouer de coups ceux-ci pour satisfaire les vices des autres. Cette raison d'ailleurs est fausse. Les hommes, après avoir travaillé pour la subsistance, travaillent pour l'aisance lorsqu'ils peuvent y prétendre. Il n'y a de peuple vraiment paresseux dans les nations civilisées que ceux qui sont gouvernés de manière qu'il n'y aurait rien à gagner pour eux en travaillant davantage. Ce n'est ni au climat, ni au terrain, ni à la constitution physique, ni à l'esprit national qu'il faut attribuer la paresse de certains peuples. C'est aux mauvaises lois qui les gouvernent. Il serait aisé d'établir cette vérité par des exemples, en parcourant tous les peuples, depuis l'Angleterre jusqu'aux Moghols, depuis la principauté de Neuchâtel jusqu'à la Chine. Seulement, plus le sol est bon, plus la nation a de facilités naturelles pour le commerce, plus il faut aussi que les lois soient mauvaises pour rendre le peuple paresseux. Il faudrait par exemple, pour détruire l'industrie des Normands et des Hollandais, de bien plus mauvaises lois que pour détruire celles des Neuchâtelois et des Savoyards. La deuxième raison en faveur de l'esclavage des nègres se tire de la nature des cultures établies dans les îles. Ces cultures, dit-on, exigent de grands ateliers et le concours d'un grand nombre d'hommes rassemblés. D'ailleurs, leur produit étant sujet à s'altérer en peu de temps, si la culture était laissée à des hommes libres, la récolte dépendrait du caprice des ouvriers. Cette seconde raison ne peut séduire aucun homme capable de réflexion, ni même quiconque n'a point passé la vie entière dans l'enceinte d'une ville. D'abord, on aurait prouvé la même chose de la culture du blé, de celle du vin, dans le temps que l'Europe était cultivée par les esclaves. Et il est aussi ridicule de soutenir qu'en Amérique, on ne peut avoir de sucre ou d'indigo que dans des grands établissements formés avec des esclaves, qu'il leur ait été, il y a 18 siècles, de prétendre que l'Italie cesserait de produire du blé, du vin ou de l'huile si l'esclavage était aboli. Il n'est pas plus nécessaire que le moulin à sucre appartienne aux propriétaires du terrain qu'il ne l'est que le pressoir appartienne aux propriétaires de la vigne ou le four aux propriétaires du champ du blé. Au contraire, en général, dans toute espèce de culture, comme dans toute espèce d'art, plus le travail se divise, plus les produits augmentent et se perfectionnent. Ainsi, bien loin qu'il soit utile que le sucre se prépare sous la direction de ceux qui ont planté la canne, il serait plus utile que la canne fût achetée du propriétaire par des hommes dont le métier serait de fabriquer le sucre. Il faut bien observer que rien dans la culture de la canne à sucre ou de l'espèce de fenouil qui produit l'indigo ne s'oppose à ce que les champs de canne ou d'indigo ne soient partagés en petites parties et divisés soit pour la propriété, soit pour l'exploitation. C'est ainsi que la canne à sucre est cultivée en Asie de temps immémorial. Chaque propriétaire d'un petit champ porte au marché le sucre de la canne qu'il a exprimé chez lui et qu'il a converti en mélasse. Et il vaudrait bien mieux encore qu'il vendît la canne ou sur pied ou coupée à un manufacturier. C'est aussi ce qui arriverait en Asie si le gouvernement n'y étouffait pas l'industrie et dans les îles si la culture y était libre. Ce que nous venons de dire du sucre s'applique à l'indigo et plus aisément encore au café ou aux épices. Il est donc d'abord très vraisemblable que les nègres ne sont pas les seuls hommes qui puissent remuer la terre en Amérique. Et il est certain que la culture par des nègres libres ne nuirait ni à la quantité, ni à la qualité des denrées, et au contraire, contribuerait à augmenter l'une en perfectionnant l'autre. Le préjugé contraire a été accrédité par les colons et peut-être de bonne foi. La raison en est simple. Ils n'ont pas distingué le produit réel du produit net. En effet, faites cultiver par des esclaves, le produit net sera plus grand, parce qu'il ne vous en coûtera en frais de culture que le moins qu'il est possible. Vous ne donnerez à vos esclaves que la nourriture nécessaire. Vous choisirez la plus commune et la moins chère. Ils n'auront qu'une hutte pour maison. À peine leur donnerez-vous un habillement grossier. Le journalier le plus pressé d'ouvrage exigerait un salaire plus fort. D'ailleurs, un journalier veut tantôt gagner plus pour former quelque capital, tantôt il veut se réserver du temps pour se divertir. S'il emploie toutes ses forces, il faut que votre argent les dédommage de ce qu'il n'a pas succombé à sa paresse. Avec les esclaves, vous employez les coups de bâton, ce qui est moins cher. Dans la culture libre, c'est la concurrence réciproque des propriétaires et des ouvriers qui fixe le prix. Dans la culture esclave, le prix dépend absolument de l'avidité du propriétaire. Mais aussi, dans la culture esclave, le produit brut est plus faible. Et au contraire, le produit brut sera plus considérable dans la culture libre. Ce n'est donc pas l'intérêt d'augmentation de culture qui fait prendre la défense de l'esclavage des nègres. C'est l'intérêt d'augmentation de revenus pour les colons. Ce n'est pas l'intérêt patriotique plus ou moins fondé, mais c'est tout simplement l'avarice et la barbarie des propriétaires. La destruction de l'esclavage ne ruinerait ni les colonies ni le commerce. Elle rendrait les colonies plus florissantes, elle augmenterait le commerce, elle ne ferait d'autre mal que d'empêcher quelques hommes barbares de s'engraisser des sueurs et du sang de leurs frères. En un mot, la masse entière des hommes y gagnerait, tandis que quelques particuliers n'y perdraient que l'avantage de pouvoir commettre impunément un crime utile à leurs intérêts. On a prétendu disculper la traite des nègres en supposant que l'importation des nègres est nécessaire pour la culture. C'est encore une erreur. Les femmes nègres sont très fécondes. Les habitations bien gouvernées s'entretiennent, même sous la servitude, sans importation nouvelle. C'est l'incontinence, l'avarice et la cruauté des Européens qui dépeuplent les habitations. Et lorsqu'on prostitue les négresses pour leur voler ensuite ce qu'elles ont gagné, lorsqu'on les oblige, à force de traitements barbares, de se livrer, soit à leur maître, soit à ses valets, lorsqu'on fait déchirer devant elles les noirs qu'on les soupçonne de préférer à leurs tyrans, lorsque l'avarice surcharge les nègres de travail et de coups, ou leur refuse le nécessaire, lorsqu'ils voient leurs camarades tantôt mis à la question, tantôt brûlés dans des fours, pour cacher les traces de ces assassinats, alors ils désertent, ils s'empoisonnent, leurs femmes se font avorter, et l'habitation ne peut se soutenir qu'en tirant d'Afrique de nouvelles victimes. Il est si peu vrai que la population des nègres ne puisse se soutenir par elle-même qu'on voit la race des nègres marrons se soutenir dans les forêts, au milieu des rochers, quoique leurs maîtres s'amusent à les chasser comme des bêtes fauves, et qu'on se vante d'avoir assassiné un nègre marron, comme en Europe on tire vanité d'avoir tué par derrière un daim ou un chevreuil. Si les nègres étaient libres, ils fourniraient une nation florissante. Ils sont, dit-on, paresseux, stupides et corrompus. Mais tel est le sort de tous les esclaves. Quand Jupiter réduit un homme à la servitude, dit Homère, il lui ôte la moitié de sa cervelle. Les nègres sont naturellement un peuple doux, industrieux, sensibles. Leurs passions sont vives. Si on raconte d'eux des crimes atroces, on peut aussi en citer des traits héroïques. Mais qu'on interroge tous les tyrans, ils apporteront toujours pour excuse de leurs crimes les vices de ceux qu'ils oppriment, quoique ces vices sont partout leur propre ouvrage. Chapitre 7. Qu'il faut détruire l'esclavage des nègres et que leurs maîtres ne peuvent exiger aucun dédommagement. Il suit de nos principes que cette justice inflexible, à laquelle les rois et les nations sont assujettis, comme les citoyens, exige la destruction de l'esclavage. Nous avons montré que cette destruction ne nuirait ni au commerce, ni à la richesse de chaque nation, puisqu'il n'en résulterait aucune diminution dans la culture. Nous avons montré que le maître n'avait aucun droit sur son esclave, que l'action de le retenir en servitude n'est pas la jouissance d'une propriété, mais un crime, qu'en affranchissant l'esclave, la loi n'attaque pas la propriété, mais cesse de tolérer une action qu'elle aurait dû punir par une peine capitale. Le souverain ne doit donc aucun dédommagement au maître des esclaves, de même qu'il n'en doit pas à un voleur qu'un jugement a privé de la possession d'une chose volée. La tolérance publique d'un crime absout de la peine, mais ne peut transformer un véritable droit sur le profit du crime. Le souverain peut, à plus forte raison, mettre à l'esclavage toutes les restrictions qu'il jugera convenables et assujettir le maître aux taxes, aux gênes qu'il voudra lui imposer. Une taxe sur les terres, sur les personnes, sur les consommations peut être injuste parce qu'elle attaque la propriété et la liberté toutes les fois qu'elle n'est pas une condition ou nécessaire au maintien de la société ou utile à celui qui paye l'impôt. Mais, puisque les possesseurs d'esclaves n'ont point sur eux un véritable droit de propriété, puisque la loi qui les soumettrait à des taxes leur conserverait la jouissance d'une chose dont non seulement elle a le droit de les priver, mais que le législateur est même obligé de leur ôter, s'il veut être juste, cette loi ne saurait être injuste à leur égard par quelque sacrifice pécuniaire qu'elle leur fit acheter une plus longue impunité de leurs crimes.